Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h et nous allons revenir sur la légende Notre-Dame de Paris avec le projet de restauration de la cathédrale débattu aujourd'hui au Sénat, alors qu'il y a un peu plus d'un mois, un incendie terrible dévastait une partie de ce bâtiment de 8 siècles, trois quarts de la toiture partie en fumée et des travaux de consolidation qui ont commencé très vite. Il faut maintenant dessiner la suite de l'histoire. Un chantier sur 5 ans, comme l'a souhaité Emmanuel Macron, est-il vraiment tenable? Et qu'est-ce qui est le plus délicat sur cet ouvrage en ce moment même? Eh bien, nos invités, architectes, spécialistes de l'histoire de la cathédrale, vont nous éclairer ce matin sur les différentes options envisagées. Notre-Dame éternelle et restaurée. Comment? Eh bien, n'hésitez pas aussi à témoigner sur le sujet, ma chère Julie.
39-21, le standard vous attend, 50 centimes la minute.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Alors que le 15 avril 2019, le temps s'est arrêté dans le ciel de Paris, enfumé par l'incendie qui a ravagé une partie de ce bâtiment. Des travaux de consolidation ont été engagés pour éviter des dégâts plus importants, déjà 10 à 13 millions d'euros pour cela. Bonjour Bertrand Lemoine.
Bonjour.
Vous étiez avec nous pour nous parler de la Tour Eiffel il y a quelques semaines, et il se trouve que vous êtes aussi, et de toute façon, architecte, ingénieur et historien. Vous ne parlez pas au nom de l'Académie d'architecture, mais vous en êtes quand même le vice-président. Philippe Delorme est également avec nous. Bonjour, historien et journaliste, auteur de La Légende Notre-Dame, qui paraîtra mercredi aux éditions du Cerf, qui est une grande anthologie, finalement, des textes qui ont mis en valeur cette cathédrale. Je précise qu'une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Notre-Dame, déjà, et qu'il était important pour vous de garder puissante cette légende au travers des textes qui l'ont revisité.
Oui, je pense que, si vous voulez, on a vu une grande émotion publique, mais derrière cette émotion, beaucoup de méconnaissance, beaucoup d'ignorance, je dirais, parce que les gens, bon, certaines personnes ne savaient même pas pourquoi on appelait cette cathédrale Notre-Dame, pourquoi c'était un lieu dévolu au culte catholique. Enfin bon, voilà. Donc il fallait revenir un peu sur l'histoire et revenir très vite. Donc l'idée d'une anthologie, c'est de reprendre des textes qui sont à la fois des textes historiques, des textes littéraires aussi, et qui nous brossent finalement le portrait de cette vieille dame qui a plus de 8 siècles. Mais enfin, au-delà de cela, c'est toute l'histoire de Paris depuis même l'époque gallo-romaine qui défile.
Avec la puissance des strates d'architecture qui l'ont habité, évidemment, et cela, ça vous engage à nous faire une description très forte de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bertrand Lemoine, finalement, quel est son style pour vous?
Ah, c'est une magnifique cathédrale gothique, certes, mais qui a succédé à d'autres cathédrales. Donc, d'ailleurs, on peut déceler la trace dans les fondations même de la cathédrale. Donc, c'est quand même une histoire qui s'est empilée sur plusieurs siècles de développement, qui a accompagné, au fond, le développement de Paris avec une enceinte, même gallo-romaine, qui est toujours là, en partie, sous ou à côté de Notre-Dame. Et Notre-Dame, avec Bourges, est peut-être une des premières très grandes cathédrales de France, qui ont ensuite donné naissance à d'autres chefs-d'œuvre comme Amiens, Reims, Chartres.
Et en même temps, c'est une cathédrale qui a été construite sur trois siècles aussi. Donc finalement, c'est un patchwork de différents styles gothiques. Et en plus, elle a été beaucoup remaniée, en particulier au XIXe siècle. Donc finalement, la cathédrale qu'on a aujourd'hui, si on regarde les pierres, beaucoup de pierres ont été enlevées,
remanié au moment même de sa construction, on a rajouté des arcs-boutants parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement la pression du vent sur la toiture, les voûtes risquaient de déformer l'édifice. Donc c'est une cathédrale qui a vécu, qui a été beaucoup restaurée au 19e siècle effectivement par Viollet-le-Duc. On a refait une partie de la charpente d'ailleurs du transept, on a restauré une partie des pierres, des sculptures nouvelles ont été ajoutées. Et une flèche nouvelle, bien sûr, a été construite à cette époque.
Nous sommes avec Pascal Prunet, un des architectes des monuments historiques, qui est chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour, monsieur Prunet.
Bonjour, madame.
Merci de nous rejoindre. Les travaux de consolidation ont été menés quasiment au surlendemain de l'incendie. On nous disait que la cathédrale avait été sauvée de justesse, que des vents violents pouvaient la fragiliser. Vous avez donc tout mis en œuvre depuis la mi-avril pour que ce bâtiment tiennent, avec quel type de chantier de consolidation, Pascal Prunet?
Eh bien, d'abord, il y a eu la mise à l'abri de la cathédrale, pour ce qui était de, enfin, en tout cas, la mise à l'abri des intempéries et de l'eau. Donc, on a très rapidement bâché le vaisseau, la nef occidentale, puis le transept, puis le chœur. Reste la partie de la croisée qui est aujourd'hui exposée et qui ne peut pas être bâchée tant que l'échafaudage principal de la flèche qui est restée, qui a survécu au suite de l'incendie, n'a pas été déposée. Oui. Indépendamment de ça, on a étayé les trois pignons ouest, nord et sud, donc qui étaient les parties d'élévation qui correspondaient à la toiture. Et puis, en parallèle, on a déposé les vitraux pour pouvoir installer progressivement un plancher de travail à partir duquel on devrait pouvoir installer les étaiements des voûtes. Mmh. Voilà. En parallèle, on commence à étayer aussi les arcs-boutants. Donc, ces travaux ne sont pas encore terminés actuellement.
Oui, il faut voilà. Préciser avec Bertrand Lemoine que ces maçonneries ont été quand même endommagées, soumises au feu, soumises à la force de l'eau aussi, au refroidissement ensuite très brutal.
Refroidissement, sans oublier le plomb.
Voilà, ça a beau être des pierres, elles ont été fragilisées.
Oui, les pierres elles-mêmes ont pu être imbibées, ont pu être donc du coup fragilisées. Heureusement, on est en été, donc il n'y a pas de risque de gel.
Oui.
Les joints des maçonneries ont pu être endommagés. Donc, il y a un travail très, très minutieux d'expertise, de diagnostic sur l'état des maçonneries qui, après les travaux de confortation menés en urgence dont parlait Pascal Prunet, sont évidemment l'étape suivante, très importante, très délicate, alors, et qui risque de prendre un certain temps d'ailleurs.
On est déjà en train de mettre en place le cadre de ce diagnostic actuellement. En fait, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un incendie. L'incendie n'a pas toujours été au même niveau de puissance quant à calorifique par rapport au contact des maçonneries. Et il y a des maçonneries qui ont subi l'incendie de manière, qui des suites de l'incendie ont été détruites, comme celle de la croisée. Beaucoup d'autres sont endommagées, notamment toutes celles des pignons et des murs. Actuellement, on a fait de premiers sondages avec l'assistance du laboratoire de recherche des monuments historiques et on a pu constater qu'on a des maçonneries qui sont endommagées dans certains sondages jusqu'à 12 cm d'épaisseur.
C'est ça,
c'est quand même pas rien, mais bon, il est évident que ces sondages ne sont pas du tout exhaustifs actuellement. Sur les voûtes, on n'a pas encore pu le faire, donc on peut faire que des constats sur les éléments qui sont tombés.
Bien sûr,
les éléments de la voûte de la nef.
En tout cas, ce qu'on comprend, c'est un long travail de consolidation d'un château de cartes qu'il faut aujourd'hui restaurer avant ces travaux de... Alors, vous parlez de travaux de confortation, avant ces travaux de restauration. Et si nous vous avons associé, messieurs, c'est un texte aujourd'hui débattu au Sénat, doit justement conforter ce projet de restauration-reconstruction qui passe par le Parlement. Vous nous direz ce que vous en pensez, d'ailleurs, vous, ingénieur, historien, est-ce le rôle du politique d'encadrer ainsi un chantier du genre historique? Cela dit, à tout de suite sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec la poste.fr. Pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment sauver la légende Notre-Dame de Paris? Quel est le contenu du projet de restauration? On en parle jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur et historien, et Philippe Delorme, historien et journaliste, auteur de La légende de Notre-Dame. Ce livre paraîtra mercredi aux éditions du Cerf, grande autologie des textes mettant en lumière Notre-Dame, préfacé par Laurent Deutsch. Avec ces mots, l'essentiel a été sauvegardé, dit-il, en particulier les rosaces du XIIIe siècle, le tympan de la Vierge, le mur du cœur de Jean le Bouteiller, la statue du pilier de Paul Claudel. Et en quelques jours s'est manifesté cet élan de générosité comme on n'en avait jamais vu encore. Notre-Dame de Paris existe depuis 850 ans et même si ce n'est pas seulement des pierres, je suis certain qu'elle va se relever, dit cet homme féru d'histoire dont il était important d'avoir la signature, Philippe Delorme aussi.
Oui, c'est un ami et puis c'est un grand amoureux de Paris et de l'histoire en général. Et donc c'était important de lui demander son opinion, de lui demander son émotion, parce qu'il a été bien sûr comme nous tous très ému. Il revenait de voyage à ce moment-là et on a tous été très émus par cette disparition, enfin cet incendie monstrueux. Maintenant, ça a révélé, je crois, je dirais aux Français que Notre-Dame tenait une place importante dans leur vie, parce qu'on passe devant sans la, on passait devant sans la voir, les touristes entraient et sortaient de manière un peu indifférente, et puis là on se rend compte que finalement ça touche à quelque chose de peut-être plus profond, je dirais de spirituel au sens large du terme, pas nécessairement religieux, hein, on peut être chrétien ou pas, mais ça touche quelque chose, je crois, qui est au fond de l'âme de la France, d'une certaine manière. Et là, on l'a vu avec cette émotion, cette réaction populaire.
Qu'elle appartient à tout le monde, y compris aux politiques. Alors, c'est pour cela que nous parlons aussi de ce projet de restauration amendé à la fois par les députés, mais aussi par les sénateurs aujourd'hui. Est-ce que cela vous choque finalement, Bertrand Lemoine, en tant qu'architecte et ingénieur, que ce projet passe par les mains des parlementaires ?
Il y a un projet de loi d'exception, on peut l'appeler comme ça, qui est en cours de discussion au Sénat aujourd'hui, en particulier un article, l'article 9, pour faire technique, qui permet de déroger, s'il est voté, aux réglementations d'urbanisme, de construction, du monument historique, même au marché public, même au code des marchés publics, pour aller plus vite. Mm-hmm. Certes, sous le coup de l'émotion, le pouvoir politique a annoncé un délai de 5 ans pour reconstruire Notre-Dame. Il ne s'agit pas d'une reconstruction, plutôt d'une restauration. Un concours international d'architectes pour la flèche, etc. Bon, c'est aller un peu vite en besogne et faire une loi d'exception pour ce monument, même si on veut aller vite, je pense que c'est un peu contradictoire avec l'idée que notre arsenal juridique, réglementaire, normatif, ne serait pas adapté pour aller vite. Mais s'il n'est pas adapté, il faut le changer, parce que l'ensemble des monuments de France sont concernés. On peut dire qu'on a en France, au contraire, une expertise technique, intellectuelle, architecturale, constructive, extrêmement forte en matière de monuments de toutes époques d'ailleurs, y compris du Moyen-Âge, et que c'est justement le travail des experts, des historiens, des architectes, des experts, des entreprises qui vont travailler, qu'il faut pouvoir encadrer, respecter, faciliter, d'autant plus d'ailleurs que la souscription, pas la souscription, mais les dons très importants qui ont influé, je dirais, lèvent l'hypothèque sur le financement éventuel qui aurait pu retarder ce chantier. Donc je crois qu'on a tous les outils qu'il faut pour restaurer Notre-Dame d'une manière très efficace, qu'on a rapide pour certains
probablement
aspects.
Probablement dans le délai affiché lent, quand même. 5 ans, c'est possible.
Non, mais 5 ans, ça dépend ce qu'on appelle 5 ans.
Ou 5 ans, c'est une vision politique.
Il faut prendre le temps de l'expertise. Il sera long, peut-être au moins un an, parce qu'il faut vraiment regarder de très près, sonder, ausculter, aller voir dans le détail s'il y a des parties endommagées, notamment dans les maçonneries, restaurer ces maçonneries de manière durable et bien sûr efficace et esthétique. Il faut ensuite couvrir la charpente, refaire une charpente, une toiture, une couverture, tout simplement pour couvrir l'édifice. Là, il y a plusieurs options qui sont possibles.
C'est pas le plus long, ça.
C'est pas le plus long. Une charpente métallique ou même en béton, on peut la construire en 6 mois, pourvu qu'on ait suffisamment conforté les maçonneries.
Mais attendez, vous dites charpente métallique ou en béton, vous parlez pas de bois ?
Charpente en bois, je pense qu'il y a une idée qui a été relancée de refaire à l'identique la charpente en bois. La charpente en bois comportait 1000-1500 chaînes. C'était une magnifique charpente qui malheureusement a disparu. C'est une perte tout à fait irrémédiable. C'était une charpente très ancienne qui avait été remaniée un petit peu au fil des siècles. La charpente du transept date du 19e d'ailleurs. Refaire une charpente en bois était à mon avis une fausse bonne idée. Peut-être on peut mieux utiliser les chaînes qu'on va nécessairement couper pour restaurer des charpentes visibles. Je rappelle que la charpente était invisible, même pas visitable. Il y a peut-être aussi préserver des grands arbres, ne serait-ce que pour capter du CO2. Et surtout, pourquoi rajouter sur le toit de Notre-Dame une masse combustible très importante, plusieurs centaines de tonnes de bois qui risquerait de brûler, on peut l'espérer que non, mais qui risquerait de brûler tout de même dans 5 ans, dans 10 ans, voire dans 100 ans. Donc, utilisons plutôt des matériaux contemporains, acier ou béton. On peut faire une petite charpente, pas très compliquée à construire.
Mais il y a des cathédrales avec des charpentes en béton aujourd'hui ?
Alors, il y a beaucoup d'exemples de cathédrales. Il y a des cathédrales avec des charpentes métalliques, comme Chartres, par exemple, comme Rennes. Des charpentes en béton, comme celle de Reims, qui a été reconstruite dans les années 20. Personne ne le sait.
Ils ne font pas mal aux yeux parce qu'on ne les voit pas.
Ça n'enlève rien à la beauté de ces cathédrales, puisque de toute façon, ce sont des charpentes, disons, fonctionnelles. Après, il y a le matériau de couverture, qui est un peu plus problématique également. On a vu que le plomb qui a fondu, qui s'est vaporisé, a endommagé un certain nombre de parties de l'édifice. Le plomb est un matériau, un métal un peu nocif. Donc, il y a peut-être d'autres solutions aussi à trouver. Et après, il restera la question de la flèche, prenant le temps, là aussi, d'y réfléchir. Donc, hâtons-nous lentement pour que toutes les expertises puissent être conduites, y compris dans le cadre réglementaire existant, qui est tout à fait adapté à la reconstruction d'un chantier comme Notre-Dame.
Alors, dites-nous ce que vous pensez, juste après la pause, de ce projet de reconstruction, de ce projet de rénovation, de restauration. Le terme que vous souhaitez employer, vous pouvez aussi l'avancer à l'antenne, comme féru d'histoire, féru d'architecture, de grandes et belles pierres. N'hésitez pas à nous appeler, à réagir aussi sur les réseaux sociaux, Julie.
Avec le hashtag Europe.
On vous donne la parole.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1, Europe 1.
Retour à notre débat du jour sur la restauration de Notre-Dame de Paris, après avoir écouté Angèle. Balançons quoi, c'était Angèle. Angèle qui se produira au Festival Solidays, le festival qui se tient sur l'hippodrome de Longchamp à Paris, en partenariat avec Europe 1 du 21 au 23 juin prochain.
Ça arrive.
Europe 1.
Un mois et demi après le terrible incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, les sénateurs examinent aujourd'hui le projet de restauration de la cathédrale, projet dont nous parlons jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard.
Un texte qui fixe le cadre du futur chantier ainsi que de la collecte, de l'utilisation, de la défiscalisation des dons faits par les Français pour contribuer aux travaux et cette loi éventuellement d'exception de chantier permettant d'aller plus vite justement et de reconstruire ou restaurer cette cathédrale dans le délai de 5 ans fixé un peu arbitrairement par Emmanuel Macron, mais on va y revenir, messieurs Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur et historien, vice-président de l'Académie d'architecture, et Philippe Delorme, vous qui publiez cette légende de Notre-Dame qui paraîtra mercredi aux éditions du Cerf, avec cette gargouille qui domine le ciel de Paris. Vous avez souhaité mettre en lumière un certain nombre de textes. Alors, évidemment, nous nous arrêtons à chaque fois avec la même émotion sur les mots de Victor Hugo, extrait de Notre-Dame de Paris. Et notamment ce chapitre 4 assez prophétique où il imagine cet incendie sur le sommet de la galerie la plus élevée, cette grande flamme qui monte entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une flamme furieuse et le vent qui emporte par moments un lambeau du bâtiment dans la fumée.
Oui, c'est prophétique, parce qu'il n'y a pas eu d'incendie de Notre-Dame, Dieu merci, au XIXe siècle, donc c'est vraiment voilà, presque une description à un siècle et demi à l'avance de cet événement. Je dirais que le XIXe siècle redécouvre l'art gothique. Pourquoi appelait-on ça art gothique ? D'ailleurs, c'était par dérision. Hein. Et les Goths, c'était les barbares. Oui, hein. Donc, ça signifiait qu'on est jusqu'au XVIIIe siècle.
C'était pas un art apprécié, ça voulait dire.
Voilà, jusqu'au XVIIIe siècle, on considérait que c'était un art extrêmement barbare, extrêmement grossier et vulgaire. Et alors qu'il fallait mettre en avant, bien sûr, le classicisme gréco-latin, etc. Donc, au XIXe siècle, avec des gens comme Victor Hugo ou des gens comme Viollet-le-Duc dans l'architecture, on redécouvre ce Moyen-Âge, on le réinvente d'une certaine manière, parce que c'est un Moyen-Âge largement fantasmé et réécrit, mais voilà, à partir de ce moment-là, on a pu sauver ces bâtiments qui auraient pu très bien être détruits. Hein. Notre-Dame, selon les goûts du XVIIIe siècle, méritait simplement d'être remplacée par un temple gréco-romain.
Ça veut dire aussi que Victor Hugo a contribué à sauver à la fois la légende et le bâtiment lui-même qui tombait d'ailleurs en désuétude.
Oui, oui. Il a écrit, bien sûr, dans Notre-Dame de Paris, une description magistrale de Notre-Dame, et il a fait beaucoup pour la restauration.
Avec l'aube du XIXe siècle, expert de l'art gothique en son temps, le fameux Viollet-le-Duc, Bertrand Lemoine, à qui l'on doit cette flèche tombée dans cet incendie. Quel sens avait-elle justement cette flèche pour Viollet-le-Duc ? C'était apporter sa touche à l'édifice dans un temps finalement un peu dissonant ?
Eugène Viollet-le-Duc, qui était donc architecte et qui a consacré toute sa vie, toute sa carrière à sauvegarder d'abord, restaurer, voire embellir, selon ses propres mots, ou transformer un certain nombre de bâtiments gothiques. À l'époque où d'ailleurs ils tombaient pour certains en ruine, rappelons que la flèche de Notre-Dame du XIIIe siècle avait été détruite, enfin remaniée déjà, mais a été démontée en vers 1790, parce qu'elle était en mauvais état, tout simplement. Et donc ce patrimoine un peu à l'abandon, Viollet-le-Duc va s'employer pendant toute sa carrière qui commence dans les années 1840, à d'abord à l'identifier, à le faire connaître en suivant la vague troubadour romantique aussi qui accompagne au fond la redécouverte de ce patrimoine, à le restaurer très soigneusement. Il écrit un dictionnaire de l'architecture en 10 volumes consacré à l'architecture du Moyen-Âge, plusieurs livres aussi, des écrits, donc un polémiste également. Et il va être sans doute l'un des meilleurs experts que la France ait pu connaître en termes d'architecture gothique, même si lui-même n'a pas hésité à mettre sa touche personnelle, mettre la main à la pâte, à reconstituer au fond des architectures fondée bien sûr sur son expertise fine de l'architecture gothique, mais inventée. Et c'est le cas de la flèche de Notre-Dame, qu'il reconstruit beaucoup plus haute que la flèche d'origine. Il construira aussi la flèche d'Amiens. Il a beaucoup travaillé sur la cathédrale de Clermont-Ferrand, par exemple. Sur beaucoup d'édifices religieux, il y a sa patte qui est mise, qui transforme bien sûr les bâtiments, mais qui est tout de même dans l'esprit de l'architecture gothique. Il reste fidèle et simplement il rajoute des éléments qui n'ont peut-être jamais existé, mais qui, selon lui, sont plausibles, au fond, qui accompagnent cette architecture. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à la lire, d'ailleurs.
Je crois qu'on renoue aussi avec un symbolisme dont on avait perdu le sens. Jules Michelet, l'historien, donc le célèbre historien, dans son Histoire de France, explique que au début du 19e siècle, finalement, Notre-Dame, c'est un lieu muet, vif, vide, parce que les gens ont perdu le sens de toute cette symbolique. Et c'est vrai qu'avec les compagnons, avec la franc-maçonnerie, etc., on retrouve à ce moment-là aussi le sens de ces symbolismes. Mmh. Et donc, on va les réinterpréter, effectivement, à la lumière de ce qu'est le 19e siècle, bien évidemment.
Pour bien faire dans la cohérence de l'histoire, puisque vous êtes aussi tous les deux historiens, il faudrait justement s'inscrire, comme Viollet le duc le fit à l'époque, dans cette poursuite de la tradition avec cette petite pointe de modernité. C'est ce que cherchent à faire aussi les experts aujourd'hui.
Disons qu'en ce qui concerne la flèche, parce que c'est comme l'élément le plus visible, peut-être le plus symbolique aujourd'hui dans la perspective de cette restauration, on pourrait d'abord ne pas la reconstruire. On pourrait retrouver l'état de la cathédrale telle qu'elle a été dans la première moitié du 19e siècle, sans flèche.
Oui.
On pourrait refaire la flèche qu'a faite Viollet-le-Duc.
À l'identique, on a les plans.
Elle est très bien documentée, on a tous les plans. C'est pas... Peut-être qu'il faudrait sans doute changer la charpente en bois de sa flèche, mais enfin, on pourrait la refaire tout à fait semblable. On pourrait aussi reconstruire une autre flèche néo-gothique, peut-être réinterprétée, mais là, on pense que ce serait peut-être compliqué, peut-être plus difficile que de simplement refaire la flèche de Viollet-le-Duc. Et puis, on peut aussi imaginer une flèche contemporaine. Mais on ne voit pas trop pourquoi, enfin, qu'est-ce qui motiverait, au fond, cette flèche contemporaine, à part peut-être le fait de vouloir laisser un signal, une trace visible,
voilà,
comme la pyramide du Louvre au milieu du Louvre, par
voilà.
exemple.
Mais est-ce le rôle aussi des politiques, oui. Justement, d'inscrire un petit peu leur présence dans les bâtiments et dans l'histoire?
Oui, c'est, d'abord, c'est aussi un bâtiment.
Je vous pose la question juste après la pause, oui. Philippe Delorme, d'accord. Gardez votre argumentaire et Didier, un auditeur, va nous rejoindre au 39-21, tout de suite.
Est-ce que le président de la République veut s'approprier la restauration de Notre-Dame de Paris, en faire un projet politique? Réaction du député Les Républicains, Guillaume Larrivé. Nous avons besoin que vous nous garantissiez que l'intention du président de la République n'est pas de façonner à sa main la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Évidemment, c'est tentant,
oui.
Philippe Delorme,
l'historien. Notre-Dame, ce n'est pas seulement un musée. C'est pas un musée. C'est un lieu vivant, c'est aussi un lieu de prière, hein, pour la communauté catholique qui l'occupe, enfin qui l'utilise. Donc c'est quelque chose de compliqué. Évidemment, les politiques et le président de la République a toute légitimité, je dirais, pour intervenir dans ce débat, mais il ne peut pas non plus transformer cela en, je dirais, en coût médiatique, etc. C'est un bâtiment qui a 8 siècles et demi, qui est très fragilisé, on le disait tout à l'heure, mais au niveau même de sa structure, et donc il faut y aller très très lentement et faire les choses avec beaucoup de précautions.
Et c'est peut-être ce qui vous agace un peu en tant qu'architecte et ingénieur, Bertrand Lemoine, c'est-à-dire qu'on s'est un peu focalisé, Emmanuel Macron et un certain nombre de politiques les premiers, sur la reconstruction de la flèche, justement, avec ce grand concours international, avec des projets parfois un peu farfelus pour reconstruire cette flèche, histoire de marquer aussi l'opinion.
Oui, je pense que le pouvoir politique a un peu cédé à l'émotion, légitime d'ailleurs, à l'émotion populaire et internationale même qui s'est exprimée. 2 jours ou 3 jours après l'incendie, le Premier ministre annonçait déjà ce concours international pour la reconstruction de la flèche, en prenant en compte, si j'ai bonne mémoire, les enjeux, j'essaie de le citer, de notre temps. On va un peu vite en besogne, il faut prendre le temps. La flèche est une question qui peut venir d'ailleurs plus tard.
Oui, c'est pas l'urgence.
On peut conforter
hein.
Notre-Dame, reconstruire la couverture, prendre le temps d'y réfléchir. Le concours international tel qu'il est annoncé aujourd'hui, s'il est lancé, va sans doute attirer des centaines, voire des milliers de réponses du monde entier.
Ça, c'est bon pour
Je
la...
Je souhaite bien du plaisir au jury qui aura à choisir.
Français,
et
oui.
Comme le jury ne pourra pas choisir, en réalité, le choix reviendra sans doute à la plus haute autorité de l'État. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, peut-on penser que le président de la République a une idée derrière la tête? C'est possible, c'est pas certain. Mais
en tout cas, il s'engage dans ce chantier, Bertrand Lemoine.
Il veut que le chantier aille vite, parce que le chantier a une importance symbolique extrême. Notre-Dame, c'est non seulement le cœur de Paris, ça représente quelque chose, pas seulement, bien sûr, chez les catholiques, c'est normal, c'est une grande cathédrale, mais dans l'ensemble de l'opinion, je rappelle que c'est le monument le plus visité de Paris, 15 millions de visiteurs chaque année, en dehors, bien sûr, de la fonction culturelle qu'elle a conservée.
C'est aussi peut-être dû au fait que c'est gratuit. D'entrer à Notre-Dame.
C'est gratuit.
Il y a
beaucoup de touristes. Et puis c'est gratuit, c'est au centre de Paris. C'est un lieu magnifique, et bien sûr, qui mérite la visite. Donc je pense que c'est bien normal que la cathédrale Notre-Dame soit au centre de beaucoup d'attention. Et réagir, un peu surréagir sans doute à l'émotion, c'est jamais de très bons conseils, me semble-t-il, dans une décision politique.
Alors voilà pour votre lecture des choses. Didier est avec nous au 39-21. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Wendy, merci de prendre mon appel.
Mais merci à vous, vous qui... Alors je ne sais pas si vous faites partie des milliers de Français, centaines de milliers de Français qui ont contribué à cette restauration en donnant à hauteur de leurs moyens, oui ?
Oui, j'en fais partie. Alors ce que je voulais d'abord, c'est féliciter l'interlocuteur que vous avez aujourd'hui, dont j'apprécie énormément la sagesse et le bon sens et la compétence. Je voudrais faire trois observations. La première, c'est que moi j'ai donné de l'argent pour qu'on refasse la même chose. Et je pense que le monde entier, à 80, je peux pas le prouver, mais je pense qu'à 90%, et en particulier les étrangers, ils veulent, quand ils viennent en France, retrouver la même chose, comme nous voulons, quand nous allons à Séville ou à Cordoue, retrouver les cathédrales construites sur les mosquées dans leur jus. Mmh. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, je ne crois pas qu'on puisse s'amuser comme ça, et surtout pas les dépenser en honoraires dispendieux avec des architectes souvent un peu artistes, l'argent des généreux donateurs qui veulent en fait l'identique. La deuxième des choses, c'est que c'est triste parce que il ne faudrait pas que ce sujet-là devienne un sujet de division.
Mais oui.
Symboliquement, c'est quand même quelque chose qui rassemble les hommes. Alors, on est croyant ou on n'est pas croyant. C'est quand même un édifice religieux avec une symbolique, et en particulier quand on dit qu'on va mettre une verrière, non, parce que dans la symbolique chrétienne, la lumière vient de l'Est, elle vient de l'Orient. On a parlé des maçons tout à l'heure. Pour les maçons, l'Orient, ça parle. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Que ce ne soit pas un facteur de division. La troisième, je ne comprends pas l'empressement à vouloir court-circuiter les structures existantes. On doit pouvoir, je pense, mettre un peu d'huile dans les procédures pour accélérer on sait bien qu'en France, l'administration est souvent tatillonne, mais d'un autre côté, nous avons des grands spécialistes, des médiévalistes, je pense à Gadi, je pense j'oublie des noms, mais nous avons des architectes conservateurs. Moi, je pense que c'est leur boulot, ils savent faire, il faut que et leur métier, c'est de conserver. Donc, quand il s'agit de conserver, c'est pas modifier. Conserver, c'est refaire à l'identique. Alors après, la maîtrise d'ouvrage au conservateur, la maîtrise d'œuvre. Alors là, on a quand même des entreprises formidables qui font des tours de 200 mètres. On a fait des progrès depuis le chêne et le plomb. On sait travailler la fibre de carbone, le titane, les bétons allégés.
Voilà, mais c'est un ingénieur qui parle, Didier, non? Ou je ne m'abuse.
Un ancien chef d'entreprise, ingénieur, propriétaire.
Voilà.
Un vrai patron, c'est-à-dire un propriétaire. Pas confondre avec un manager salarié. Voilà.
Merci Didier, en plus pour cette éditorialisation. Attends, mais je vous remercie. Oui, dites-moi.
Je finis juste une chose.
Allez-y.
Juste une chose.
Oui.
Il faut que ce soit une vitrine de la techno, des Vinci, des Bouygues. Et des FH, ouais. On sait faire des serpentes, on a des ordinateurs fabuleux. Voilà.
Donc, voyez, génial, Didier. Philippe Delorme vous répond.
C'est peut-être un peu contradictoire quand vous parlez d'identique et puis de technologie nouvelle. Donc moi, je pense que l'identique, c'est aussi un peu dangereux parce que c'est fossilisé. Hein, Notre-Dame, à l'identique de quoi d'ailleurs ? Notre-Dame, c'est un bâtiment qui a vécu depuis 8 siècles et demi. C'est un bâtiment qui n'est plus du tout celui qui a été construit il y a 8 siècles et demi. On a changé des pierres au long des siècles. Aujourd'hui, les pierres de la façade de Notre-Dame sont, je ne sais pas, à 90% des pierres qui ne sont pas du Moyen-Âge. Donc, bien sûr, ça veut... Qu'est-ce que signifie à l'identique ? À chaque génération et à chaque âge, on a apporté aussi un élément de modernité. Donc, cette modernité, elle peut aller dans la technique de reconstruction, elle peut aussi aller dans certains aspects, en respectant, bien sûr, l'esprit fondamental. On ne va pas faire une piscine ou une forêt sur Notre-Dame, voilà. comme on l'a pu le voir dans certains plans.
Dans l'humour noir.
On peut garder l'esprit et l'âme de ce bâtiment en y insufflant un tout petit peu de notre
échange très intéressant entre Philippe Delorme et Didier, auditeur passionné s'il en est. Merci. Juste après la pause, c'est Bruno qui va échanger avec vous, Bertrand Lemoine. Je crois qu'il suit un petit peu justement votre idée de modernité, d'apport de modernité dans cet édifice. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous parlons de la restauration de Notre-Dame de Paris. Il y a un véritable débat autour de la flèche.
Flèche ou pas flèche, moderne ou pas. Voilà. Hier, messieurs Philippe Delorme et Bertrand Lemoine, vous qui êtes historien, et puis pour vous Bertrand Lemoine, architecte et ingénieur, le grand architecte Jean Nouvel était l'invité d'Europe 1 pour le grand rendez-vous. Et il disait, pour la reconstruction de Notre-Dame, il faut être plus gothique que jamais. Comment vous interprétez cette vision,
non, ça, c'est du Jean Nouvel
de votre confrère.
Enfin, je pense que dans son esprit gothique, ça veut peut-être dire aussi très contemporain. Mm-hmm. en privilégiant peut-être l'aspect structurel du gothique. Je pense que le débat, en tous les cas sur la flèche, il est posé, il est très ouvert, il est contradictoire. Et les options sont encore une fois très, très, très possibles. On peut reconstruire la flèche telle que Viollet-le-Duc l'a dessinée, on a tous les éléments pour le faire. La flèche d'origine, on a peu de documents, et on a quelques estampes, quelques gravures, donc il serait difficile de la reconstruire. Faire une flèche néo-gothique aujourd'hui, mais dans l'esprit du Moyen-Âge, c'est possible également.
Ça serait quoi néo-gothique ? Parce que j'ai vu par exemple un projet de faisceau de lumière qui reproduirait la flèche identique.
Ce serait pas néo-gothique, ce serait peut-être symboliser la flèche.
Mais c'est quoi néo-gothique ? Je sais pas ce que ça veut dire néo-gothique.
Non, mais néo-gothique, ça veut dire faire une flèche dans l'esprit gothique avec, avec la meute des natures gothiques, avec la décoration et les sculptures, etc.
Qui décide du projet final ? On va la faire moderne, on va la faire ancienne.
Qui décide ? Il y a un concours qui a été lancé, mais annoncé en tous les cas. Je pense qu'il faut justement prendre le temps de la réflexion. On peut très bien d'ailleurs reconstituer la couverture. Avec des matériaux, à mon avis, contemporains pour pérenniser cette couverture, encore une fois, une structure en acier ou en béton ou autre chose. Et on peut très bien prévoir un socle sur lequel, éventuellement, dans l'avenir, on reconstruirait cette flèche.
Donc
on
a 5, 10 ans, 15 ans, voilà.
On peut matérialiser par un faisceau de lumière en attendant la forme de la flèche si on souhaite.
Messieurs, Philippe, et après je vais vous opposer pas mal d'auditeurs.
Le problème, c'est toute la question du pastiche et qui traverse un peu notre époque, parce qu'on fossilise, on muséifie un certain nombre de monuments, alors que c'est pas du tout dans l'esprit de l'histoire. Refaire à l'identique, ça a toujours un côté un peu, poussiéreux. Donc pourquoi effectivement, comment est-ce qu'on peut insuffler une dose de modernité en gardant sous l'esprit de la chose ?
Ce que j'aime bien, c'est que ça passionne les Français, contributeurs ou non de ce projet. Bruno est avec nous au Standard d'Europe 1 39-21. Bonjour Bruno.
Allô,
oui, bonjour.
Merci de prendre mon appel.
Bah, merci à vous de votre intérêt. Alors, flèche moderne, flèche ou pas pour vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah oui, bah, pour moi, ça coule de source. J'ai été comme tout le monde très déçu, horrifié quand j'ai vu les images à la télé, et dès le lendemain, sans entendre la radio, j'étais parti pour refaire quelque chose de plus moderne. Et ça m'a carrément amusé après de voir les commentaires des spécialistes, en fin de compte, limite reprendre mon idée, quoi. Moi, quand j'ai vu les images des différents projets, j'ai vu les flèches modernes, style en cristal, qui ont, en fin de compte, passer la cathédrale dans le 21e siècle, quoi. On pourrait presque même dire si la chrétienté évolue et passe dans le 21e siècle. Et je suis complètement d'accord pour ne pas refaire à l'identique. Parce que refaire à l'identique, ça sera jamais avec les matériaux d'époque et tout. Donc on saura automatiquement que c'est une copie, quoi.
Oui, de toute façon.
Je suis totalement d'accord avec vous.
Autant apporter un aspect 21e siècle qui ajoute une couche de sédimentation à cette cathédrale. Oui.
C'est ça. Mais par contre, sans tomber dans l'excès non plus. Il y a des projets qui sont totalement ça va pas, quoi. Je veux dire, tous ces projets avec les
Bruno,
arts sur le toit et tout.
Justement, voilà. Écoutez, anachronique ou pas, le projet que Bernard nous propose, d'Asnières-sur-Seine, Bertrand Lemoine, pourquoi ne pas faire une flèche en verre, pour reprendre aussi un peu la proposition de Bruno ?
En verre, en titane, dans ce que vous voulez, mais je pense que le problème, encore une fois, est posé de manière très, très, très prématurée.
Et très anecdotique, c'est ce que vous voulez dire, finalement.
Il y a aussi
sur cette flèche.
La flèche, évidemment, couronne l'édifice. Elle montait à 95 mètres, la flèche de Viollet-le-Duc.
Et puis, on l'a vu s'effondrer en direct. Il y a cette émotion.
La flèche symbolisait presque à elle seule le symbole qui est déjà Notre-Dame. Je rappelle qu'il y a d'autres flèches construites au 19e siècle, comme celle de la cathédrale de Rouen, qui est en fonte. L'église Saint-Bernard à Paris, dans le 18e arrondissement, a une flèche en fonte, mais de loin, il faut vraiment savoir qu'elle est en fonte pour voir la différence avec une flèche en pierre. Donc le matériau est quelque chose, l'aspect de la flèche est autre chose. Et symboliser une modernité dans Notre-Dame, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je pense que la question est loin d'être tranchée.
Ce qui est important, et c'est ce qu'on est d'accord là-dessus, je crois qu'il faut d'abord pérenniser le bâtiment qui était déjà très malade avant l'incendie, et je pense que cet incendie d'une certaine manière a révélé une grande misère qui est aussi la grande misère de toutes les églises de Paris et même de toutes les églises de France, et donc c'est vrai que cet afflux d'argent va certainement permettre de faire un chantier modèle de reconstruction, de restauration, et ensuite effectivement cerise sur le gâteau ou flèche sur le toit, si l'on peut dire, rajouter peut-être une petite touche de modernité. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord que le bâtiment tienne le coup.
Voilà, l'urgence pour vous demain, messieurs, on va en parler. Je cite Claude Philippe, je suis contre la flèche moderne, il nous écrit de Noisy-le-Grand, je redoute le pire, je crains que nos politiques saisissent l'occasion aussi de marquer leur passage, on y revient, ce qui pourrait détruire le sens du monument. Il est souhaitable de reproduire pour moi cette flèche à l'identique, on a les moyens de le faire. Expertise, justement, et ouvrage et artisanat au cœur de cette restauration. À tout de suite sur Europe 1.
Un mois et demi après l'incendie, Notre-Dame continue de marquer notre histoire et notre actualité. Wendy Bouchard.
Avec les auditeurs passionnés qui nous rejoignent pour parler de ces travaux, à la fois en ce moment de consolidation, 10 à 13 millions d'euros déjà engagés, une phase d'expertise qui va être très longue. On en parle tout de suite avec Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur et historien. Et je vous annonce mercredi la sortie en librairie de La Légende de Notre-Dame, texte choisi par notre invité historien et journaliste Philippe Delorme, grande anthologie de ses textes préfacés par Laurent Deutsch. Avec ces mots de Léo Ferré dans Les cloches de Notre-Dame, cloches de Notre-Dame à Paris, qui sonnaient les glas et les carillons, qui sonnaient la joie et la peine. Cloches de Notre-Dame à Paris, vous êtes vieille comme le monde, vous êtes pauvre comme la Seine, vous êtes tendre comme le bronze. Voilà, par exemple, ces mots que nous pouvons retrouver avec vous.
Longue histoire, les cloches de Notre-Dame, si on remonte à Gargantua de Rabelais, oui. Qui les avait volées pour les mettre au cou de sa jument. voilà, enfin, on a toute une histoire, une grande connivence entre les Parisiens et leur cathédrale.
Elle traverse l'histoire et la littérature, ces cloches notamment. Jeudi, grand débat à 18h, place des Vosges, à l'Académie d'architecture. Bertrand Lemoine, vous en êtes le vice-président. Vous associez donc le public à ces discussions autour de la restauration de Notre-Dame.
Oui, l'Académie d'architecture, une association reconnue d'utilité publique, organise donc mercredi prochain à 18h au 9 Place
mercredi,
des Vosges.
Pardon, oui.
Un débat avec les représentants, les représentants du clergé, des architectes en chef des monuments historiques, des architectes, des historiens, des philosophes aussi, autour de cette question de Notre-Dame. Dont on voit bien qu'elle mérite débat. Nous n'avons pas pris une position aujourd'hui parce qu'on voit que les avis sont divergents peut-être. Mais en tous les cas, nous avons souhaité éclairer le débat public en organisant ce débat qui aura lieu à 18h, qui permettra, je l'espère, de faire avancer la réflexion.
En faisant un peu pression sur les parlementaires ?
Oui, et puis il ne s'agit pas de faire pression a priori. De toute façon, le Sénat a bien réagi déjà. Oui. Hein, ils sont assez grands pour réagir tout seuls. Mais il s'agit plutôt de contribuer à avoir un débat plus serein, plus informé. On a encore une fois beaucoup d'expertise en France à tout niveau. Mm-hmm. Et il faut s'appuyer, je pense, sur cette expertise. Et peut-être faire du chantier de Notre-Dame, quelles que soient les options choisies, un modèle, un exemple pour d'autres chantiers du même oui. genre, de restauration, d'adaptation, de transformation, de conservation de notre très, très riche patrimoine, pour que justement nos procédures soient éventuellement revues à la lumière de ce chantier qui doit être encore une fois exemplaire. Et faire une loi particulière, une loi un peu d'exception pour ce chantier est justement contradictoire avec cette idée que le chantier doit être un moteur justement pour l'avancement
oui.
des savoir-faire en termes de restauration.
Mais ça c'est incroyable, on avait cet auditeur Didier qui nous disait que ça ne doit pas être quand même un argument de division. Or c'est un argument un peu politique qui divise aussi la classe politique, certains y voyant la main d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mettant quasiment un peu au défi un certain nombre d'architectes en disant il faut de la volonté, il ne faut pas que l'expertise prenne le pas justement sur la volonté d'agir vite. Aussi, mais l'expertise, elle est plus que nécessaire. Aujourd'hui, la phase sera longue, Bertrand. Non,
l'expertise est absolument indispensable. Il faut vraiment prendre le temps de l'expertise. Elle n'est pas du tout contradictoire avec la volonté d'agir. Au contraire, c'est parce qu'on a une expertise fine, juste, adaptée, consciente des enjeux, que l'on pourra avancer d'une manière satisfaisante. Il ne faut pas peut-être renverser les choses en parlant d'expertise après l'action.
Oui.
Cet événement très médiatique, enfin très dramatique de cet incendie, ça a révélé, ça a été un peu un électrochoc qui a révélé aussi tout le problème du patrimoine en France.
Oui. Hein.
Notre ami Stéphane Bern s'en occupe beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'il y a des chantiers comme Notre-Dame, il y en a des milliers et des milliers, à petite échelle bien sûr, hein, des petites églises de campagne, des églises parisiennes qui sont souvent en très mauvais état, mais pas que des églises, des châteaux, etc. Donc on a vraiment un patrimoine extraordinaire qui mérite d'être préservé, d'être légué à nos descendants. Et donc voilà, ça, ce chantier, effectivement, peut nous donner un modèle, un cadre pour aller de l'avant dans d'autres chantiers par la suite.
Sachant qu'on a beaucoup de compétences, beaucoup d'artisans aujourd'hui qui sont sur le pont et qui ont envie d'être là, d'être utiles, Bertrand Lemoine, on a ces forces vives à mobiliser.
On a beaucoup de compétences existantes, sans doute des compétences à former, et un enjeu national en termes de conservation, de mise en valeur de notre patrimoine. On a plus de 50 000 églises, par exemple, en France. Beaucoup sont dans un état difficile, avec peu de moyens. Les communes n'ont plus les moyens de les entretenir pour beaucoup. Il n'y a pas seulement les églises, les châteaux et le patrimoine ordinaire.
D'ailleurs, ces dons peuvent être divisés aussi. Hein. Vous n'avez pas utilisé probablement le milliard d'euros.
Sans doute la manne, effectivement, qui vient de Notre-Dame. Mais en même temps, je pense qu'il est utile que notre pays prenne conscience que l'investissement financier, économique et également en termes de capacité, y compris en termes de formation, nécessaire pour préserver ce patrimoine, est indispensable. Je rappelle que la France est tout de même la première destination touristique au monde, que ce patrimoine a aussi son rôle dans la vie économique, et pas seulement dans la vie économique, bien sûr dans la vie sociale française.
Avec pour l'instant 12 à 14 millions de visiteurs un peu orphelins de ce lieu dont on attend évidemment la réouverture, mais pas dans l'urgence, dans la raison gardée de l'expertise aussi. La grande légende de Notre-Dame, vous pouvez la revivre en attendant à travers les siècles avec cet ouvrage qui sort mercredi, de Verlaine à Péguy, d'Aragon à Léo Ferré, on le citait, de Victor Hugo à Rabelais, des texte choisi par Philippe Delorme, l'un de nos invités aux éditions du Cerf, donc ça sort mercredi. Et merci Bertrand Lemoine. Si on veut donc un petit peu, si vous êtes parisien, s'investir dans ce sujet, rendez-vous mercredi
18h. À 18h, 9 Place des Vosges à Paris.
Voilà, merci beaucoup. Débat public. À demain ma chère Julie. Merci de votre fidélité.
C'était Wendy Bouchard et c'était le tour de la question. Avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, imprimez vos timbres depuis votre bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.